Commentaire, Kant, La tête dans les nuages, une émission proposée par Raphaël Antoven.
Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère?
Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.
Tes amis?
Ou servez-la d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu?
Ta patrie?
J'ignore sous quelle latitude elle est située.
La beauté?
Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle.
L'or?
Je le hais, comme vous haïssez Dieu.
Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?
J'aime les nuages. Les nuages qui passent là-bas, là-bas. Les merveilleux nuages.
Quand j'étais en terminale, le cours de philosophie sur Emmanuel Kant était attendu comme la roulette du dentiste. Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger, le seul titre de ses ouvrages me faisait bâiller d'effroi et semblait dire que cet homme-là n'était jamais content. Ouvrir un livre de Kant, c'était comme entrer dans les ordres ou dans la basilique Saint-Pierre de Rome sans en connaître les usages. Chaque page était comme un vitrail en papier bible, chaque titre était comme une énigme. Fondement de la métaphysique des mœurs, anthropologie du point de vue pragmatique, esthétique, analytique, dialectique transcendantale, prolégomène à toute métaphysique future, etc., etc. Les mots de Kant suscitaient à la fois l'ennui, la terreur et une certaine curiosité. J'avais devant moi des syntagmes barbares qui avaient perdu leur sens en cours de route, le temps de parcourir le chemin qui allait de la page à mes yeux. Je lisais Kant en français, comme dans une langue étrangère, au style grimaçant et aux phrases à rallonge. Kant, en un mot, c'était l'allemand qui parle chinois. Et comprendre Kant, c'était un peu comme escalader l'Everest en petite tenue. Pourquoi fallait-il qu'un penseur indispensable fût un écrivain absurde? Pourquoi le dieu des philosophes était-il le cauchemar des apprentis? Mon Kant à moi n'était pas un maître, c'était un contre-maître. Et le symbole même de l'autorité acquise à coups de jargon sur des esprits trop faibles pour se défendre. Mais du coup, je regardais comme des demi-dieux ceux qui, à les croire, aimaient et comprenaient Kant. Et pour cause, comment un cerveau assez puissant pour déchiffrer ces hiéroglyphes germaniques pouvait-il ne pas être génial? Si ça se trouve, le génie, comme un fantôme, n'existe pour se cacher que dans l'obscurité. Et Kant m'était pénible et incompréhensible. Mais comme la vénération naît souvent de l'ignorance, ça lui donnait en quelque sorte l'aura du mystère ou le prestige des savants. Comme un enfant qui s'endort la veille d'une interro, le livre ouvert sur la tête en espérant qu'un peu de son contenu passera dans la nuit par les pores de sa peau, je lisais Kant en me disant qu'un beau jour, les mots finiraient par délivrer leur sens emprisonné et que, pour apercevoir le soleil, il fallait d'abord se mettre la tête dans les nuages. Tout comme Socrate, ce Silène, que Rabelais disait laid de corps et ridicule en son maintien, qui avait le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un fou, et qui dissimulait une intelligence diamantine sous une enveloppe grotesque, la critique de la faculté de juger se lit, elle aussi, comme un livre à double fond. Sous une forme pénible, sous un aspect sinistre, s'y trouvent les réponses lumineuses à des questions essentielles. Par exemple, plus difficile à comprendre que Kant lui-même est l'attitude des hommes face au sentiment du beau. Si je vous dis « à chacun ses goûts », vous serez d'accord avec moi. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Pourtant, et c'est la kélos, si vous dites d'un spectacle naturel ou artistique qu'il est beau, une partie de vous-même exigera implicitement des autres qu'ils soient d'accord avec vous. Ça, c'est Kant qui le dit. Le sujet, quand il donne une chose pour belle, prétend trouver la même satisfaction en autrui. Il ne juge pas seulement pour lui, mais pour tous. Alors comment concilier ces deux comportements parfaitement contradictoires? Comment dire « à chacun ses goûts » tout en voulant s'entendre sur ce qui est beau? C'est de cette impasse-là que Kant, l'empereur disgracieux des philosophes, parvient à nous libérer dans la critique de la faculté de juger. De ce point de vue, ce texte si laid, qui dit des choses si belles, est plus qu'un chef-d'œuvre, c'est un mode d'emploi. Et c'est sur la solution, magnifique pour le coup, que Kant donne au problème de la beauté, que Commentaire se penchera aujourd'hui en compagnie de Jacques Dariula, qui enseigne la philosophie de l'art à l'université de Paris 4, en se posant avec lui tout simplement la question de savoir de quel droit chacun parle au nom de tous quand il dit ces simples mots « c'est beau ».
Je crois qu'il faudrait d'abord remarquer, si on prend la question sous ce biais, que l'on ne parle pas ici véritablement de la beauté, mais plutôt du sentiment que la beauté nous inspire. Et c'est un fait que Le sentiment de la beauté, l'émotion que nous éprouvons à la suite du choc de cette rencontre, cette émotion est à la fois extrêmement intime, personnelle, touche à quelque chose que nous ne pouvons comprendre que dans la mesure où nous pesons ce qu'il y a en nous de plus intérieur. Et en même temps, et cela à l'inverse de bien d'autres sentiments qui sont personnels et en ce sens n'intéressent que nous, le sentiment de la beauté implique une sorte de nécessité intérieure qui fait que nous le ressentons non pas comme une impression contingente, éphémère ou fugace, mais comme quelque chose d'essentiel quant à notre rapport à l'existence et à notre situation dans le monde. Et en outre, non seulement ce sentiment est nécessaire, mais en plus, il provoque en nous une sorte d'élargissement ou d'épanchement, je prends volontairement des termes kantiens, puisque c'est la direction vers laquelle nous allons nous acheminer, une sorte d'élargissement qui contient en lui le besoin d'un partage ou d'une communication. C'est-à-dire que chacun a bien éprouvé que lorsque il ressent l'émotion de la beauté, il éprouve aussi le besoin de partager ou de vérifier, de communiquer avec autrui cette émotion. Et on pourrait même dire que ce qui crée le plus immédiatement une amitié entre les hommes est une communication, une rencontre sur ce terrain du sentiment esthétique.
Un sentiment en commun.
Un sentiment en commun. Lorsque vous sortez d'un film où, que vous avez trouvé magnifique, que vous venez de lire un livre que vous avez trouvé splendide, ou plus encore lorsque vous êtes devant un paysage naturel, nous aurons peut-être l'occasion de penser ce plus encore, eh bien, vous avez besoin, si un ami vous accompagne, vous avez besoin d'essayer de le persuader qu'effectivement c'est beau. Et s'il refuse ce jugement, alors vous ne le comprenez pas, vous avez le sentiment d'avoir affaire à un martien, non pas un homme, tant il est vrai que peut-être nous vérifions notre commune humanité à la communication du jugement esthétique, et vous vous employez à le persuader. Pendant des heures, on discute beaucoup d'un livre, d'un film, discussion que tout le monde connaît, que chacun a connue, et dont on sait aussi qu'elle ne parvient jamais à aucune conclusion décisive, puisque nous sommes incapables de démontrer notre sentiment, c'est-à-dire de transformer l'impression intérieure de la nécessité en une démonstration objective.
La communicabilité universelle subjective du mode de représentation dans un jugement de goût. Alors qu'une telle communicabilité doit intervenir sans présupposer un concept déterminé, ne peut consister en rien d'autre qu'en l'état d'esprit qui s'instaure dans le libre jeu de l'imagination et de l'entendement, en tant qu'ils s'accordent entre eux, ainsi que c'est requis pour toute connaissance en général. Car nous sommes alors conscients que ce rapport subjectif, qui convient à la connaissance en général, devrait valoir pour chacun et par conséquent être universellement communicable. Est beau ce qui plaît universellement, sans concept.
Lorsque dans une formule célèbre et souvent mal comprise, Kant dit que le beau plaît sans concept.
Universellement sans concept.
Universellement sans concept, ce qui d'ailleurs, vous avez tout à fait raison,
ce qui est
tout
soi
à fait contradictoire,
chose.
Puisque le propre du concept, c'est que précisément il pose une, sinon universalité, du moins une généralité.
Ce que je veux dire, c'est que 2 et 2 font 4 est une généralité universelle, conceptuelle, simple, compréhensible, accessible et indiscutable.
Oui.
En l'occurrence, la beauté plaît universellement sans qu'il y ait de règles à cela.
Elle plaît universellement. Alors, universellement, cela veut dire que nous sentons cet épanchement du sentiment esthétique en nous et que nous éprouvons le besoin de l'universaliser. Mais l'universalité, ici, est purement subjective. L'universalité de Fonds 4, qui est fondée sur la structure de l'entendement humain, est objective, elle est irréfutable. Il s'agit d'un sentiment d'universalité et non pas d'une démonstration qui a valeur universelle.
Ça veut dire, pardonnez-moi, je fais une toute petite parenthèse, ça veut dire que ça n'est pas un sentiment universel, mais c'est le sentiment que l'émotion que j'éprouve est universellement communicable.
Oui, peut-être plus que cela même, le sentiment s'éprouve lui-même comme une sorte d'épanchement intérieur de mon être, quand dit un jaillissement de la force vitale qui ouvre mon existence à une dimension nouvelle. Il y a des sentiments qui nous rétrécissent ou qui nous diminuent ou qui nous définissent dans ce que nous avons de différent des autres. Le sentiment esthétique est au contraire un sentiment qui porte en nous l'existence de l'humanité entière, de cette humanité qui est la nôtre, de fait, à savoir un mixte d'entendement et de sensibilité, et c'est cette nature humaine dont nous éprouvons la généralité et l'universalité par l'émotion que nous fait ressentir la beauté. Et c'est pourquoi ce sentiment est effectivement subjectivement universel, dans la mesure où il porte en lui une sorte d'élan ou d'élargissement qui implique, nous le sentons, nous ne le connaissons pas, qui implique déjà un autrui humain comme nous, c'est-à-dire à la fois raisonnable et sensible. Finalement, qu'est-ce qui me permet de savoir que l'être qui se trouve en face de moi et qui a l'apparence physique de l'humanité, mais qui pourrait aussi bien être un automate qu'un homme, vieux problème depuis Descartes, qu'est-ce qui me permet de savoir qu'il est effectivement un homme? La réponse de Kant, ça sera qu'il partage avec moi l'émotion esthétique. S'il ressent comme moi le choc de la beauté, alors je sais qu'il est humain et que nous pouvons nous entendre. Il y a là un terrain d'entente qui est celui de la société humaine, de la simple sociabilité, de la communication entre les hommes, bref, de l'amitié que les hommes en tant qu'hommes peuvent avoir les uns pour les autres, un terrain d'entente qui définit son domaine.
Une représentation qui, prise isolément et hors de toute comparaison avec d'autres, s'accorde pourtant avec les conditions de l'universalité qui définit la fonction de l'entendement en général. Conduit les pouvoirs de connaître à cet accord proportionné que nous exigeons pour toute connaissance et dont nous considérons qu'il vaut pour quiconque est destiné à juger grâce à l'entendement et au sens réunis, pour tout homme.
Parlons des nuages. À ma connaissance, je ne connais personne qui ne trouve les nuages beaux. À moins que ce soit un cumulonimbus tout noir qui signifie que l'orage va venir et que par conséquent je sois partie prenante dans le spectacle que je regarde et que moi-même je suis habillé trop légèrement et que la perspective de l'orage à venir me déconcerte. Donc peut-être que le sentiment de la beauté à ce moment-là passera après le sentiment de la crainte ou la peur du rhume que je vais attraper, etc. Mais un nuage, tout le monde s'accordera à dire qu'un nuage est beau, ou un ciel parsemé de nuages, etc. Et pourtant, c'est un jeu auquel jouent les enfants comme les plus grands, personne ne verra dans un nuage la même forme. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce sentiment inné de la beauté du nuage et cette incertitude ou ce débat possible à partir de ce terrain d'entente qui est le sentiment de la beauté sur la question de savoir quelle est la forme de ce nuage? Est-ce que c'est une sorcière sur son balai? Est-ce que c'est une carte de l'Europe? Est-ce que c'est... peu importe. On ne s'accorde pas sur ce qu'est la forme, mais on s'accorde à dire que le nuage a une forme et qu'il est beau. Comment expliquer ça? À quoi tient la beauté d'un nuage?
On peut trouver qu'un nuage est beau, et vous savez que Baudelaire dira bientôt que c'est cette contemplation des merveilleux nuages qui fait le propre de la rêverie poétique. Mais ce jugement est quand même étrange. Il est étrange parce que ordinairement, enfin, selon la tradition, on appelle beauté une sorte de perfection formelle. On avait même cherché un canon ou des proportions géométriques de la beauté, et on croyait que l'excellence de la beauté se trouvait dans... la finition, l'achèvement et la perfection de la forme. Or, s'il y a précisément un spectacle de l'informe, c'est bien le nuage. En vérité, comme vous l'avez dit, je crois que ce n'est pas le nuage lui-même qui est beau. À vrai dire, le nuage lui-même, il est bien difficile de savoir ce que c'est, ou plutôt, comme le dit Kant, pour connaître la chose elle-même, il faut en faire un phénomène, c'est-à-dire, il faut la reproduire en laboratoire par une expérimentation, à partir d'une théorie qui a été élaborée a priori par l'entendement. Alors seulement nous pouvons construire l'objet nuage comme le font les spécialistes de la météorologie. Science qui précisément se développe particulièrement en ce début du 19e siècle. Mais alors à ce moment-là, nous ne sommes plus du tout sensibles à la beauté du nuage. Il s'agit de classer les nuages selon qu'ils annoncent l'averse ou une éclaircie. C'est un autre regard, bien entendu, que le poète... dirige vers les merveilleux nuages. Si bien que lorsque nous disons qu'un nuage est beau, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, vous avez parlé d'une image d'une sorcière ou d'un cavalier, nous ne parlons pas du nuage, nous parlons des formes que nous hallucinons en lui. C'est-à-dire que l'exemple du nuage, que Kant ne prend pas
précisément dans la troisième critique, mais on trouve dans la critique de la faculté de juger, et dans la partie bien évidemment consacrée au jugement esthétique, des exemples qui sont assez proches, comme celui des volutes d'un torrent, d'un ruisseau, ou bien des flammes du feu, autres exemples donc de l'informe, qui sont présentés comme presque des modèles, des exemples plutôt, puisque Kant oppose ces deux notions, de la beauté. Il apparaît donc que la beauté du nuage n'est pas le nuage lui-même, je le répète, mais plutôt les formes que l'imagination fait apparaître en lui. La leçon, en dehors de ce procédé très étonnant qui permet à l'imagination de faire surgir une forme du sein de l'informe, procédé que Kant nomme le schématisme et qui a une forme particulière dans le jugement esthétique, au-delà de ce simple procédé, nous devons constater ici que la beauté, un peu comme ce test du Rorschach qu'utilisent les psychologues pour dessiner le profil d'une personnalité, que la beauté ici est de l'ordre du fantasme, qu'elle n'est pas objectivable, qu'elle n'est pas dans la chose elle-même, mais elle est une sorte de fantasmagorie que fait apparaître le jugement esthétique et que pourtant Kant ne prend pas comme le psychologue prend les visions dont le test de Rorschach est le prétexte, et qui ne sont pas significatifs simplement de la personnalité ou de l'individualité de celui qui juge, mais qui sont plutôt significatifs d'un certain jeu de l'imagination avec les formes.
J-E-U.
J-E-U, absolument. Jouer avec la forme, un certain jeu qui est qui désigne en propre, selon Kant, l'activité artistique précisément et la production du beau. Si bien qu'on voit vraiment la beauté se dissiper dans les nuages, dans la vapeur, et devenir une sorte de mirage. Je dirais presque halluciné par la beauté, plus que réellement rencontré par la sensibilité, une sorte de mirage évanescent et énigmatique qui est l'occasion pour l'imagination de dessiner, ou plutôt de tirer du sein de l'informe, une forme, un instant définissable.
Dans les photos d'Artus Bertrand, que vous connaissez certainement, La Terre vue du ciel, ce bel album de photos qui avait été exposé sur les grilles du Jardin du Luxembourg, les gens s'arrêtaient le long des grilles du Luxembourg pour regarder les photos, et chacun était émerveillé par la beauté de ce qu'il voyait. Et on avait donc La Terre vue du ciel avec, disons, c'était une autre façon de regarder des phénomènes dont on était pourtant familier, on les voyait d'en haut. Bien. Et on voyait des dessins tout à fait inattendus qui, en réalité, correspondaient à quelque chose, et l'émerveillement venait souvent du fait qu'on se disait « Ah mais oui, c'est donc cela. Ah oui, c'est donc un fleuve qui en rencontre un autre. Ah oui, c'est un champ de blé, etc. etc. » Donc du décalage qu'il y avait entre ce qu'on voyait et ce qu'était ce qu'on voyait. Parmi ces photos, il y en a deux qu'Artus Bertrand avait mis en exergue. La première était le dessin d'un cœur dans un champ, de quelque chose qui ressemblait à un cœur dans un champ, et la seconde image était un dessin, là aussi dans un champ, qui ressemblait cette fois-ci à un cheval. Et ces deux photos, qui étaient les plus ludiques de l'album d'Artus Bertrand, n'étaient pas pour autant les plus belles. Est-ce que ça tient au fait que, face à un spectacle dont on peut dire à quoi il ressemble, certes l'esprit s'amuse, mais l'émotion est moindre?
L'émotion est moindre, mais la curiosité, vous le disiez vous-même, était plus grande. Kant prend des exemples assez semblables, mais ces exemples ont quelque chose de frappant, en ce sens qu'il nous présente une beauté gratuite, une beauté au hasard. On pourrait dire, puisque pour Kant, l'art doit prendre l'apparence de la nature, Kant veut dire que la beauté que l'artiste nous propose doit être aussi gratuite, aussi incompréhensible, aussi émerveillante que ce cœur que dessinait une forêt ou à moins une végétation sur un lac, j'avais un peu oublié, mais je me souviens de cette photo qui effectivement...
qui était la couverture de l'album.
Qui était frappante. Et l'intérêt de ce type de beauté, c'est qu'on ne peut pas lui présupposer un sens. Bien souvent, les gens parlent des œuvres d'art en évoquant le message de l'artiste. C'est une expression qui m'a toujours beaucoup gêné. Il m'a toujours semblé que quand on a un message à délivrer, comme l'on dit un peu pompeusement, eh bien, on parle ou on écrit, mais on ne dessine, ni ne peint, ni ne compose de la musique. Je ne crois pas qu'une œuvre d'art a un message. Je ne crois pas qu'elle dit quelque chose. Je crois qu'elle propose une forme qui, dans sa gratuité, est rencontrée de façon surprenante, qui nous prend par surprise, cette forme qui est plus qu'une apparence, je dirais un appât, qui rend possible ce jeu de la rêverie intérieure que doit produire, enfin que nous demandons à la beauté, et qui est l'objet de cette critique de la faculté de juger.
Et à quoi la beauté se reconnaît.
Et à quoi la beauté se reconnaît.
Celui qui, solitairement et sans l'intention de vouloir communiquer ses observations à d'autres, contemple la belle forme d'une fleur sauvage, d'un oiseau, d'un insecte, etc., pour les admirer, pour les aimer. Celui-là prend un intérêt immédiat et, à vrai dire, intellectuel à la beauté de la nature. Cela dit, il faut remarquer ici que si l'on avait abusé secrètement cet amoureux du beau en plantant dans la terre des fleurs artificielles ou placé des oiseaux artistement sculptés sur des branches d'arbres, et si ensuite il avait découvert la supercherie, l'intérêt immédiat qu'il portait auparavant à ces objets disparaîtrait aussitôt.
Comment se fait-il qu'un feu artificiel soit toujours moins agréable que le crépitement du vrai bois ? Ou que l'explosion silencieuse et lointaine d'une étoile morte depuis longtemps nous émeuve davantage qu'un feu d'artifice sonore, voisin et parfaitement mis en scène. Comment se fait-il que des cheveux savamment décoiffés n'aient jamais la grâce spontanée d'un visage au réveil? Pourquoi la contrefaçon est-elle non seulement illégale, mais surtout illégitime? D'où vient l'espèce de suspicion qui entoure la chirurgie esthétique? Qu'est-ce qui fait qu'un bouquet sublime de fleurs en plastique n'arrive pas à la tige d'un seul véritable coquelicot? La supériorité de la nature sur l'art tient, selon Kant, dans le fait qu'elle manifeste une intention sans que cette intention soit intelligible. La beauté naturelle, c'est comme un discours sans mots, une évidence illisible, ce que Kant appelle une finalité sans fin. Le propos de Kant n'est pas de vanter la nature contre l'art, mais de montrer que l'art authentique doit comporter une part de naturalité, cette espèce d'incertitude, un élément qui échappe au contrôle du sujet comme aux objectifs que se donne l'artiste. La nature était belle, dit-il, lorsqu'en même temps elle avait l'apparence de l'art. Et l'art ne peut être appelé beau que si nous sommes conscients qu'il s'agit d'art et que celui-ci prend cependant pour nous l'apparence de la nature. Ce faisant, par Kant, l'art devient à lui-même sa propre fin. Et le respect des règles a moins d'importance que l'invention perpétuelle de règles inédites dont chaque œuvre nouvelle est porteuse à sa manière. En préférant la nature incertaine à l'art organisé, en accordant miraculeusement l'imagination et l'entendement. Kant libère l'artiste de l'emprise fastidieuse de l'esprit sur le cœur. C'est ce qui fait dire par exemple à Oscar Wilde que le jour le plus triste de sa vie était le jour de la mort de Lucien de Rubempré. Quelle meilleure façon de magnifier le monde que de mettre l'artifice ou la connaissance en sourdine et de confondre à nouveau les satellites et les étoiles filantes, les baisers d'acteurs et les baisers d'amour, un réverbère et la pleine lune, la musique et la compassion elle-même, l'orage et la colère des dieux, le ciel et la voûte céleste, les nuages enfin et les gâteaux de chocolat blanc. La nature, disait Baudelaire, est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Alors méfiez-vous des illusions dont on perce le secret, car ce ne sont plus que des vérités, et en un sens, rien n'est moins vivant que la vérité.
Quoi de plus apprécié par les poètes que les trilles du rossignol dans un bosquet solitaire, durant un calme soir d'été, sous la douce lumière de la lune? Pourtant, on connaît des exemples où, comme on ne pouvait trouver un tel chanteur, quelque hôte jovial est parvenu à tromper, à leur très grande satisfaction, ses invités, venus chez lui jouir de l'air de la campagne, en dissimulant dans un buisson un jeune garçon malicieux, sachant imiter avec à la bouche un roseau ou un jonc, ce chant d'une manière parfaitement conforme à la nature. Mais dès que l'on prend conscience qu'il s'agit d'une tromperie, personne ne supporte longtemps d'entendre ce chant tenu auparavant pour si attrayant.
C'est un fait que nous ne parvenons pas à trouver beau ce qui est travaillé, ce qui est apprêté.
Alors à quoi tient cette déception ? Au fait qu'on en connaisse le fin mot, au fait qu'on sache ce que c'est ?
Sans doute parce que nous attendons de la beauté la splendeur d'une émergence radieuse, au-delà du sens, au-delà de la signification, ou plutôt en deçà de la signification, un pur hasard qui nous propose une forme qui, dans sa grâce, dans sa métamorphose, dans son apparente finalité, pourtant dépourvue de toute finalité, est l'occasion d'une rêverie qui met en jeu à la fois notre intelligence et notre imagination. Et c'est cette rêverie, c'est le sentiment de cette activité intérieure de la rêverie esthétique que nous nommons le sentiment du beau. Au fond, je dirais que la supériorité du chant du Rossignol sur les vocalises de la diva, c'est qu'on peut toujours prendre le livret de l'opéra et se demander ce que la diva veut dire, et que la force du Rossignol, c'est qu'il ne veut rien dire. Et que la beauté est cette
présence. En tout cas, à notre connaissance.
À notre connaissance, mais justement... Vous avez raison, ça veut dire quelque chose, puisque le Rossignol délimite son territoire, et par ailleurs son chant est un appel sexuel. Donc c'est le commencement d'une pariade.
Sexuelle. Disons que ce chant ne nous concerne pas.
Oui, ou plutôt, disons même que lorsque l'éthologue nous explique le chant du Rossignol, nous sommes très intéressés, mais nous oublions sa beauté. Et nous ne pouvons percevoir sa beauté que dans la mesure où nous ne connaissons pas son sens. Dès que j'étudie le chant de l'oiseau en pensant à sa signification dans l'évolution des espèces, eh bien je suis attentif à beaucoup de qualités de ce chant, mais je ne sais plus écouter sa beauté. Et si je veux être sensible à sa pure beauté, il faut que je me mette dans un état d'esprit tel que je n'admire que la pure manifestation, le mouvement gratuit de l'apparaître, dans son immédiateté et dans sa naïveté. Je dirais même, c'est la raison. Si l'on suit cette réflexion, on comprend bien vite que la nature est plus belle que les œuvres de l'homme. Parce que précisément, l'œuvre de l'homme est toujours lestée de la charge de la signification. On se demande toujours ce que l'artiste a voulu dire. Vous connaissez le mot célèbre de Picasso, un journaliste un peu excédé par ses changements de style, lui avait dit une fois, mais enfin monsieur, qu'est-ce que vous cherchez à dire? Et Picasso a magnifiquement répondu, moi je ne cherche pas, je trouve, je rencontre, je vois. La nature ne veut rien dire, et sa beauté en ce sens est une pure énigme. Et c'est pourquoi elle sera toujours plus puissante, plus majestueuse aux yeux de Kant, qu'une beauté produite de main d'homme qui est dépravée par le soupçon de la signification.
Mais par exemple, quand on est face au pain de sucre à Rio et qu'on trouve ça beau, on peut aussi dire « je trouve ça beau parce que c'est majestueux, je trouve ça beau parce que c'est un morceau de terre qui s'élève au milieu des eaux ». On peut donner des raisons au sentiment de la beauté que nous inspire tel ou tel spectacle. Ce que je veux dire, c'est que vous dites que la nature ne veut rien dire et que sa beauté est énigmatique. Est-ce que la beauté naturelle, que Kant donc tient pour supérieure en ce sens à la beauté artistique, comme vous l'avez dit, est-ce que cette beauté naturelle n'a pas non plus la vertu, certes, de se présenter à nous comme une énigme, mais une énigme en même temps qui nous oriente vers la possibilité que la nature puisse vouloir dire quelque chose?
Alors, vous avez parlé du pain de sucre, il y aurait bien des significations, et j'imagine tout de suite la psychanalyse.
Vous me mettez de la bouche.
Ces associations sur ce pain de sucre. Mais, bien sûr, oui, la nature dans son prodige, dans sa merveille, hein, les mirabilia, les merveilles de la nature, avec le sens féerique que le Moyen-Âge pouvait avoir de la nature peut être symbolisée, mais elle est symbolisée en certaines circonstances, et d'ailleurs, selon Kant, il est impossible de définir précisément quelle forme est plus susceptible qu'une autre de provoquer en nous ce travail de symbolisation. Le scientifique, lui aussi, utilise la nature comme l'occasion pour exercer son intelligence. Mais cette intelligence tend à construire l'objectivité du monde, à nous mettre d'accord sur ce qu'il en est de la vérité du monde. Alors que le poète ou l'artiste ou... le rêveur, puisque j'ai parlé de rêverie pour nommer ce jeu de l'imagination et de l'intelligence qui est le propre du sentiment esthétique, selon Kant, l'artiste ou le rêveur ne cherche pas du tout à construire l'objectivité du phénomène. Il utilise l'apparence, peu importe que le nuage soit un cumulus ou autre chose, il utilise le nuage comme un théâtre de fantasmagorie par lequel il va faire surgir des figures qui vont inspirer son génie, son imagination, le pouvoir qu'il a de créer des formes, et formes qui vont faire appel à son intelligence, qui va varier ces formes pour en produire d'autres en un jeu qui se renouvelle sans fin et qui est celui même de la création.
C'est la raison pour laquelle chez Kant, on passe du spectacle du beau, le spectateur, que nous sommes tous, à la production de beauté, à la création de beauté, c'est-à-dire à l'artiste, que nous ne sommes pas tous. Ou peut-être que nous sommes tous en droit, mais qu'en fait, nous ne sommes pas tous en pratique, nous ne sommes pas tous. Alors, est-ce que c'est en ce sens qu'on peut comprendre la différence que Kant fait, par exemple, entre Newton et Homère? Kant dit ceci, il dit « Newton peut reconstituer le cheminement qui l'a conduit à découvrir ce qu'il a découvert. En revanche, Homère serait incapable de raconter, comme un récit donc, ce qui l'a inspiré et ce qui l'a fait écrire comme il a écrit. »
Ainsi peut-on parfaitement bien apprendre tout ce que Newton a exposé dans son œuvre immortelle. Mais on ne peut apprendre à composer des poèmes d'une manière spirituellement riche, si détaillée que puissent être tous les préceptes conçus pour l'art poétique et si excellent qu'en soient les modèles. L'explication tient au fait que Newton pouvait rendre entièrement clair et distinct, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tout autre et pour ses successeurs, toutes les étapes qu'il eut à accomplir. En revanche, aucun Homère ne peut indiquer comment ses idées poétiquement riches et pourtant en même temps intellectuellement fortes surgissent et s'assemblent dans son cerveau. Cela parce qu'il ne le sait pas lui-même, et dès lors ne peut non plus l'enseigner à personne.
Est-ce que cette différence, cet écart, on pourrait dire presque cette infirmité de l'artiste par rapport au scientifique qui, lui, peut reconstituer la matière de son raisonnement, est-ce que cet écart ne tient pas précisément à cette différence de traitement de la chose perçue?
Oui, Kant va même plus loin, puisqu'il
dit
que...
Parce que c'est un lieu commun, je veux dire, c'est un lieu commun. On dit souvent, l'artiste ne peut pas expliquer son œuvre, alors qu'un scientifique peut expliquer ses découvertes. Derrière ce lieu commun, il y a une vérité profonde qui est donc mise à jour par Kant, qui est celle-là.
Je pense que c'est un lieu commun depuis Kant, et que ça n'était pas un lieu commun auparavant. Je vais y revenir, mais Kant va même plus loin, puisqu'il dit que Newton n'est pas un génie. C'est une intelligence supérieure, mais dans la mesure où il suit le cheminement par lequel l'entendement réussit à construire l'objectivité du monde, à définir la chose, eh bien, dans cette mesure, Newton est une intelligence supérieure, mais c'est sans rapport, enfin, il n'a rien à voir avec le génie de l'artiste. Seul l'artiste est génial, seul le poète est génial, parce que, comme vous le dites, il est incapable de dire ce qui s'est produit en lui. Qu'est-ce qui s'est produit en lui ? Lorsque Kant dit que le jugement est sceptique et désintéressé, il veut dire que c'est à la condition de se mettre, pour ainsi dire, sur un balcon en forêt, hors du monde, se retrancher de la situation, pur observateur du monde, ici réduit au spectacle de la simple apparence, c'est à la condition de ce retranchement que je peux en découvrir la beauté. Tant que je m'affaire dans le monde, tant que je l'utilise, et ou encore, pour reprendre l'activité du jugement spéculatif, du travail scientifique, tant que j'objective le monde, que je cherche à en construire la réalité objective, eh bien, je me rends incapable d'en apprécier la beauté. Il faut donc que je pose le monde comme un songe. Kant prend l'exemple d'un palais. Un palais est d'autant plus beau qu'il est un palais des mille et une nuits. C'est une vision de rêve. Et Kant ajoute, j'apprends que ce palais n'existe pas, ou plutôt le jugement esthétique est indifférent à la beauté, à l'existence du palais, pardon, car c'est son apparence comme un pur mirage qui fait sa beauté. En ce sens, on comprend bien que le fait de supposer que la vie est un songe, loin de diminuer la beauté du monde apparaissant, l'accroît plutôt. On a là une sorte de renversement assez étonnant. Depuis des siècles, on disait que la peinture est une tromperie, par exemple, et qu'elle fait croire à une troisième dimension. Voyez Platon, voyez l'histoire naturelle de Pline, et que c'est une sorte de trompe-l'œil, donc, que nous fait croire à une réalité en laquelle nous ne pouvons pas pénétrer.
Et qu'en revanche, la beauté est un moyen d'accéder à la chose en soi. Là, on est chez Platon.
Effectivement,
que donc la beauté est un moyen de connaissance, alors que pour Kant, le jugement esthétique et le jugement de connaissance sont deux choses tout à fait différentes.
Le génie est le talent qui donne à l'art ses règles. Dans la mesure où le talent comme pouvoir de produire inné chez l'artiste, appartient lui-même à la nature, on pourrait aussi s'exprimer ainsi. Le génie est la disposition innée de l'esprit par l'intermédiaire de laquelle la nature donne à l'art ses règles.
Qu'est-ce qu'un génie pour Kant ? C'est un esprit qui est plus vivant que les autres. C'est-à-dire que la vitalité s'y manifeste avec une effervescence supérieure que dans les autres esprits, et que l'imagination, la production de l'imagination, la subtilité de l'entendement, attentif aux figures que lui présente l'imagination, entraîne ici, provoque une sorte de d'effervescence, un luxe d'image sans commune mesure avec ce que peut éprouver un esprit plus ordinaire. Si je veux comprendre l'œuvre du génie, il faut que je tente de, et là encore c'est un point de vue,
comprendre, pas expliquer,
sympathiser, disons, certainement pas connaître, j'aurais dû dire en termes kantiens penser et non pas connaître. Si je veux penser l'œuvre du génie, c'est-à-dire tisser autour d'elle, autour de ce point aveugle, la broderie infinie que compose le jeu de l'imagination et de l'intelligence, il faut que je tente de retrouver cette alchimie du verbe, cette alchimie des formes qui a produit l'œuvre. Et par conséquent, il ne s'agit pas ici d'être ignorant, mais je vais avoir un rapport au tableau qui sera tout à fait différent. Un rapport, pardon, à l'image, ou, puisque on parle surtout ici d'image, c'est regrettable, ce pictorialisme des philosophes est sans doute regrettable, mais une analyse de l'improvisation musicale est parfaitement possible aussi, également chez Kant, et lui-même y fit allusion. Mais laissons cette question annexe, enfin du moins qui n'entre pas immédiatement dans notre propos. Je veux penser la beauté, eh bien, je dois donc retrouver le cheminement par lequel le génie a produit l'œuvre.
En pure perte, on n'y parvient jamais.
On n'y parvient jamais, puisque le génie, qui semble-t-il, serait le mieux placé, mais c'est peut-être qu'une apparence, il n'est pas certain que l'artiste soit le mieux placé pour juger de la vérité de son œuvre, puisque le génie lui-même n'en sait rien. Cependant, c'est cela qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, pour le dire autrement, c'est la vie. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans un esprit lorsqu'il est plus vivant que les autres, lorsque la subversion de la vie s'épanche en lui et donne lieu à la création d'une forme nouvelle. Comment jugeait-on l'art autrefois ? On rapportait l'œuvre à un modèle transcendant. C'est-à-dire qu'il y avait l'art classique, et par classique on voulait dire, c'est un mot dont nous avons perdu le sens, l'art classique c'était l'art grec, du moins tel que le néoclassicisme, et bien avant même, enfin, mais le néoclassicisme l'avait vraiment défini comme un modèle scolaire. Classique ne veut pas dire l'époque classique, où on parle d'âge classique. Classique n'est pas une époque, au contraire, c'est une perfection intemporelle. L'origine en est un mot latin, classis, qui désigne la classe supérieure de la société romaine, c'est la crème, si vous voulez, c'est ce qu'il y a de mieux. L'art classique, c'est la réalisation optimale de la beauté dans l'histoire des hommes. Donc on se référait à ce modèle qui était parfaitement défini. Les académies s'étaient efforcées de le définir rigoureusement. Il y avait des proportions géométriques extrêmement précises à partir du corps humain. C'est pas hasard si c'est le corps humain qui avait été pris comme module universel de la proportion de la beauté. Donc il y avait un modèle intelligible auquel on se référait. Pour savoir si une tragédie était bonne, on se référait aux règles que les académies pensaient avoir édictées à partir de la poétique d'Aristote. Le modèle était donc ici transcendant à l'art. C'était un modèle idéal dont l'œuvre réelle peut s'approcher plus ou moins sans jamais en rejoindre la perfection.
Et la réussite d'une œuvre dépendait de sa conformation à ses règles préétablies, ce que le génie, chez Kant, permet de subvertir radicalement.
Oui, car ces règles préétablies renvoyaient donc à un modèle extérieur et transcendant. Nous cherchons au contraire une expérience vitale, comme le disent ces livres à dessous, mais qui font fortune dans l'art moderne. La vie passionnée de Vincent Van Gogh, Saint Vincent, peintre et martyr, l'homme à l'oreille coupée, qui fait partie de notre théologie esthétique. Oui, ce qui nous intéresse, c'est la vie passionnée. On n'avait jamais écrit de vie passionnée dans l'Antiquité. La vie passionnée de Phidias n'a jamais intéressé personne. Ce qui intéressait, c'était la perfection formelle de l'œuvre.
Par Phidias, vous désignez toute la statuaire grecque du 5e siècle.
Fait, vous avez tout à fait raison. Phidias, dans le modèle néoclassique, est assez peu connu, puisque c'est l'Apollon du Belvédère qui est considéré comme le sommet de la beauté. Et c'est une œuvre bien plus tardive. Bien. Donc, la beauté était jugée en référence à un modèle extérieur. Maintenant, au contraire, parce que l'art est le lieu où nous expérimentons la puissance de la vie que nous ressentons intérieurement, la beauté est pensée à partir du drame intérieur qu'il a composé. Et ce drame intérieur, il nous intéresse, parce que précisément ça n'est pas un drame purement personnel, parce que nous le ressentons bien comme quelque chose d'universalisable. Il y a dans toute beauté la promesse du bonheur. Ce n'est pas exactement en ce sens.
C'est Stendhal qui disait ça.
Stendhal le disait, oui. Stendhal disait, la beauté n'est que la promesse du bonheur, ce qui est tout à fait différent. Mais si cette formule a tellement frappé, Nietzsche la reprend d'ailleurs en écrivant la beauté et la promesse du bonheur. Et là, le bonheur, c'est la révélation de la vraie vie, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure. Oui, ce que nous demandons à la beauté, enfin, l'œuvre d'art ou la beauté, est le témoignage d'un instant de vie intense. Et pour penser la beauté, il nous faut donc retrouver, et c'est là une tâche impossible, mais c'est une tâche essentielle, il nous faut retrouver le mystère, enfin le cheminement de cette alchimie intérieure par laquelle un génie a été producteur d'une œuvre, comme malgré lui, on peut dire qu'il a produit le chef-d'œuvre comme un pommier produit des pommes, hein, parce que dans le secret de cette production gît le secret de la vie la plus intense, et que pour nous autres modernes, nous pensons le bonheur dans l'intensité d'une vie sensiblement éprouvée. En ce sens, la troisième critique s'achemine vers cette esthétique qui devient une éthique de l'intensité vitale, je dirais, et c'est peut-être la leçon la plus précieuse et la plus énigmatique que nous pouvons entendre dans ce texte si paradoxal et si déroutant par bien des points de vue de la critique de la faculté de juger.
Ce qu'on peut retenir aussi de la notion du génie, c'est le rapport à la règle. La beauté, donc, autre lieu commun depuis Kant, n'est pas déductible de l'application de règles censées l'encadrer, la déterminer. La beauté relève très exactement, pour reprendre l'expression de Jean Kelevitch, d'un « je ne sais quoi », c'est-à-dire d'un moment où effectivement la connaissance nous fait défaut, la science ou le savoir nous fait défaut, et où par là même, le monde comme énigme nous apparaît révélé par le talent du génie. En d'autres termes, le génie ne produit pas en se conformant à certaines règles, mais il produit lui-même, par l'œuvre inédite qui est la sienne, les règles nouvelles auxquelles d'autres pourront choisir de se conformer ou non. Proust parlait de l'avènement de chaque artiste comme d'un cataclysme nouveau. Est-ce qu'on peut penser ça à partir de Kant?
Oui, je pense, puisque s'il y a un écrivain qui pense la rencontre sensible comme l'appât d'un jeu infini de l'imagination et de l'intelligence, la sensation comme motif. Remarquez bien, les peintres aujourd'hui ne parlent plus de modèle, justement. Ils parlent d'un motif, et le motif, c'est ce qui met en mouvement, c'est ce qui donne une impulsion. La sensation dans ce qu'elle a de plus singulier, dans l'espace et dans le temps, un regard derrière une haie d'aubépine, un pas faussé sur des pavés mal équarris, un instant donc qui provoque tout un ébranlement intérieur qui met en jeu la mémoire, l'imagination et l'intelligence, je crois que c'est bien Proust. Proust lui-même, d'ailleurs, pense, un peu avant que le narrateur ne rencontre le regard de Gilberte, il voit des pêcheurs qui lancent leurs appâts dans l'eau de la Vivonne et remarque que lorsqu'on lance un morceau de pain, il y a quantité de têtards qui s'agglutinent autour de ce morceau de pain, c'est-à-dire d'être encore larvaire. De même que lorsque la rencontre esthétique propose son appât, lorsque la bête aux yeux de prodige fait son apparition, alors il y a toute une œuvre larvaire qui s'agglutine autour de ce point aveugle. Et tout le travail de l'artiste est de lui donner forme, précisément, exactement comme l'imagination dessine un profil repérable dans l'informe du nuage. Vous parliez du génie. Kant dit « la nature donne la règle au génie ». Non pas les règles, mais la règle, ce singulier est étonnant. Il n'y en a qu'une. Lorsque Kant écrit que la nature donne la règle au génie, il veut dire bien entendu que ça n'est pas le Dieu. C'est-à-dire que nous ne pensons plus que le poète est un inspiré du Dieu, comme le pensait Platon dans un dialogue célèbre, qui comparait le poète... Oui, non, je pensais au Ion, où Platon compare le poète à un anneau de fer qui est aimanté, qui est traversé par le magnétisme. Quand on parle de la poésie en évoquant les champs magnétiques, eh bien, on est peut-être platonicien sans le savoir. Le poète, donc, est traversé par le magnétisme qui vient du Dieu. Ce Dieu qui est comparé par Platon à un aimant, donc, qui attire à lui le poète. Et le magnétisme, passant par l'anneau de fer du poète, attire tous ceux qui l'entendent, formant, dit Platon, une sorte de chaîne d'inspirés.
Un peu comme le morceau de pain jeté dans la Vivonne qui attire les têtards. Sauf que vous ne le citiez pas dans le même sens.
Sauf que c'est l'inverse. Sauf que ça n'est plus une transcendance, justement. Ça n'est plus un dieu qui appelle le génie à produire une œuvre, une forme donc...
Mais un morceau de pain.
Mais un appât qui ne signifie rien. Ou plutôt, ce que signifiait le geste de Gilberte, vous le savez, vous avez lu la recherche, vous savez à la fin que c'était une invitation obscène à un plaisir que l'enfant n'osait pas encore nommer. Et par conséquent, bien loin de ce regard effaré, angoissé et lourd de désir que l'enfant avait perçu sans le comprendre, et dont la charge affective, la charge esthétique, n'était aussi intense précisément que parce qu'il ne l'avait pas compris. Et c'est précisément parce qu'il y avait ce point de résistance à l'intelligence que l'œuvre d'art devait produire son travail de broderie autour de cette lacune. Il s'agit bien ici d'une rencontre qui ne signifie rien. Lorsqu'Apollon souffle sa parole au poète, cela a un sens. Quand un dieu nous parle, rien ne peut avoir un sens plus haut. Mais lorsqu'une rencontre au hasard, une comme votre cœur... composé au hasard et que nous découvrons par une vue aérienne d'une forêt, une forme ainsi donnée au hasard, qui n'a aucun sens, qui ne signifie rien en aucune langue, mais lorsqu'elle surgit devant nous et provoque cette activité créatrice qui est en fait le vrai sens de la vie, car c'est seulement lorsque nous sommes créateurs que nous vivons vraiment, c'est là la leçon du génie, et tous en chacun peut en ressentir intérieurement la vérité. Alors, cet appât qui est le motif de la création artistique, n'a aucun sens. Il ne vient pas d'un dieu. C'est plus l'absolu ici qui se réalise dans l'art. C'est une rencontre contingente, comme cette passante, à laquelle Baudelaire a dédié un sonnet bouleversant. Cette passante qui ne veut rien dire, sinon qu'elle est en grande robe noire, en deuil sans doute, et qui n'est belle que parce que précisément elle demeure muette, parce qu'elle demeure à jamais dans la mémoire du poète le hiéroglyphe d'une écriture qu'on ne saura jamais déchiffrer, mais dont l'énigme est si puissante, et il est énigmatique de savoir pourquoi il y a ici une énigme, dont l'énigme est si puissante que nous ne cesserons jamais de produire du concept autour de ce sans-concept qui a mis en jeu, mis en mouvement, qui a donné son impulsion créatrice aux facultés vives, aux facultés représentatives, à la vitalité de l'esprit qui est en nous.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais crispé comme un extravagant dans son œil, ciel livide, où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Merci Jacques Dariula de cette conversation sur Kant. Je rappelle que vous enseignez la philosophie de l'art à Paris 4 et que vous êtes l'auteur en particulier de deux essais remarquables, publiés tous deux aux éditions de La Lagune, Métaphore du regard, publié en 1993, et Sébastien le Renaissant, une réflexion sur l'image du martyr de Saint-Sébastien dans l'art du Quattrocento, publié en 1999. C'était commentaire consacré à la critique de la faculté de juger. Merci à Georges Clès et Anne Brissier pour la lecture des textes, à Brigitte Bouvier pour la réalisation, à Élise Leu pour la prise de son et à Michel Créis pour le mixage.